Radio Okapi.
Le journal en français, Mimi Ngumba.
La question de dédoublement de partis politiques préoccupe les collectifs de 33 ONG de défense de droits de l'homme. Leur président, vous le suivrez, demande au vice-premier ministre de l'Intérieur de résoudre cette crise. Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, elle est célébrée ce 20 mars. Dans ce journal, vous suivrez les recommandations faites par le programme en charge de ce secteur. L'invité de Radio Okapi ce soir, c'est le chef de la section VIH-SIDA MONUSCO, Dr Didine Dongossi, nous parlera des actions menées au Nord Kivu au profit de Casque Bleu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Démarrons cette édition d'information par cet appel du collectif de 33 ONG de défense des droits de l'homme. Georges Kapiamba, président de ce collectif, demande au ministre de l'Intérieur de prendre toutes les dispositions pratiques pour vider la question de dédoublement de partis politiques avant la date limite des dépôts de leur liste à la CENI. Il s'exprimait ainsi dans une déclaration faite à la presse lundi 19 mars, ici même à Kinshasa. Georges Kapiamba est au micro de Paul Maté.
Que la question de dédoublement des partis politiques de l'opposition puisse être rapidement vidée. Parce que nous savons que les anciens ministres de l'Intérieur, les prédécesseurs de l'actuel ministre, M. Mova Sakani, ont eu à travailler sur une politique qui a contribué au dédoublement de plusieurs partis politiques de l'opposition. Et cette situation a même provoqué des tensions à la base entre les différents militants des différentes structures des partis politiques. Et nous souhaiterons que cette fois-ci, lorsqu'ils vont rédiger, adopter la dernière liste, qu'ils puissent supprimer les partis dédoublés, c'est-à-dire que les dissidences qui ont été savamment et délibérément créées, entretenues par ses prédécesseurs dans le but tout simplement de démolir les partis politiques principalement qui étaient autrefois membres de la majorité présidentielle et qui sont devenus membres du G7.
Il n'y aura pas de primaire au sein du Rassemblement de forces politiques et sociales de l'opposition en prévision de la prochaine élection présidentielle pour le choix d'un candidat commun. C'est l'annonce de Kyungu Akumwanza, coordonnateur du RASOP et de la nouvelle plateforme dénommée Ensemble pour le Katanga. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse organisée ce lundi à Lubumbashi, en marge de la séance de restitution des travaux du conclave de Johannesburg. D'après lui, chaque parti membre du RASOP qui voudra présenter son candidat le fera. L'essentiel est qu'il y ait alternance à la tête de l'État avec l'avènement de l'opposition à la présidence de la République. Les propos de Kyungu Akumwanza ont été recueillis par Jean Gandou.
Qu'on soit clair, le mouvement Ensemble pour le changement est une plateforme électorale qui a comme candidat Moïse Katumbi-Charles. Maintenant, le mouvement Ensemble reste membre du RASO. C'est-à-dire que moi, je reste coordonnateur du RASO Grand Katanga et directeur de campagne de Moïse Katumbi-Charles au sein de Ensemble pour les gens. Donc nous n'aurons pas d'élection primaire et non. Que ceux qui sont capables d'apporter un plus dans notre plateforme, eh bien, au centre. D'ici là, il y aura un congrès de l'UDPS. L'UDPS peut présenter son candidat président de la République. Et nous avons applaudi, mais je ne serai pas capable de candidat de l'UDPS.
Revenons à Kinshasa où le comité laïque de coordination interpelle la communauté internationale et sollicite sa plus grande implication dans le processus électoral en cours en RDC. C'est l'appel qu'a lancé le CLC dans une lettre de 7 pages adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Dans cette lettre, le CLC fait savoir à la communauté internationale que le Congo connaît une histoire électorale émaillée de plusieurs crises qui tirent son origine de la volonté du président de la République de se maintenir au pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat. Plus de détails à Skanzi Biataero.
Il est précisé dans cette lettre que le processus électoral a commencé à être bloqué depuis 2012. Des stratagèmes ont été multipliés pour ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Parmi ces stratégies, le CLC évoque la publication de nombreux calendriers électoraux non consensuels avec de nombreux préalables techniques et financiers. Le passage de 11 à 26 provinces modifiant ainsi la cartographie électorale, la multiplication des conflits armés à l'est, en Ituri, au Kasaï, dans le Tanganyika, et l'application sélective et biaisée de l'accord du Saint-Sylvestre. Ce qui plonge aujourd'hui, selon celle-ci, la RDC dans une profonde impasse politique aux conséquences multiples sur le plan sécuritaire, économique, social et humanitaire. C'est dans cette perspective que le CLC réclame au chef de l'État, Joseph Kabila, des signaux de sa volonté politique pour promouvoir une alternance pacifique du pouvoir à travers la tenue des élections le 23 décembre 2018. D'où, à 9 mois de ces élections, le CLC invite la communauté internationale à trouver les voies et moyens les plus efficaces pour permettre l'application des actions et des mesures prévues par l'accord politique et la résolution 2348.
Restons à Kinshasa pour parler de l'ouverture, c'est lundi, du forum des parlementaires de la CIRGEL. Plus d'une cinquantaine de parlementaires venus de la région des Grands Lacs, dans l'Angola, le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie ont pris part à cette cérémonie. 3 points sont à l'ordre du jour de ce forum, dont l'approbation du rapport du secrétaire général sortant des parlementaires de la CIRGEL, la nomination du nouveau secrétaire général, ainsi que l'analyse de la situation politique et humanitaire dans la région du Grand Lac. Dans son mot d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a invité les législateurs des différents pays à œuvrer pour relever les grands défis de pratique démocratique, de la bonne gouvernance et de l'alternance. Le droit à la liberté de réunion pacifique a été sévèrement restreint et souvent violemment réprimé en RDC en 2017 et cette tendance continue encore cette année selon un rapport de l'ONU publié ce lundi à Genève. Le rapport documente les meurtres et d'autres violations graves de droits de l'homme dues à un recours excessif à la force par les services de sécurité et les forces de défense congolais lors des manifestations. Entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2018, au moins 47 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées par les services de sécurité et les forces de défense dans le cadre de manifestations. Les services de sécurité congolais ont tenté de dissimuler ces graves violations de droits de l'homme en enlevant les corps des victimes et en entravant le travail des observateurs nationaux et internationaux, indique ce rapport. En Ituri, des affrontements ont eu lieu samedi dernier entre les casques bleus uruguayens de la MONUSCO et des hommes armés des fusils et des machettes dans la localité lacustre de Djo, au bord du lac Albert, à l'est de Bounia, dans les territoires de Djougou. Selon le porte-parole militaire de la MONUSCO qui confirme l'information ce lundi, ce sont ces assaillants qui ont ouvert les feux sur une patrouille des soldats de la paix. Bilan, 2 assaillants tués. Martial Kiza pour d'autres détails.
Deux attaques contre les casques bleus ont eu lieu à une journée. Les porte-parole militaires de la MONUSCO déclarent que la première attaque a eu lieu vers 14h30 à Bui et la deuxième vers 18h dans la localité de Djo. Le major Adil Assirir indique que cette unité d'infanterie des casques bleus uruguayens faisait une patrouille de reconnaissance dans cette zone lorsqu'une dizaine d'hommes armés ont tiré plusieurs coups d'effet sur eux. Un échange de tirs s'en est suivi, ce qui a coûté la vie des deux assaillants. Major Adil Assirir.
Les assaillants qui ont attaqué notre position à Djo. Donc, en premier lieu, on voulait dispatcher des troupes par moyen aérien, mais on n'a pas pu établir une LS. On a envoyé des troupes en premier lieu de l'État qui ont été arrêtées au niveau de Rovo parce que la voie est inaccessible. Il y a une zone montagneuse. Donc, ils ont parti. Ils ont passé 48 heures sur la zone. Et suite à cette attaque-là, qui a eu lieu à 18h, et qui est fondée par le meurtre de deux assaillants.
Des sources sur place déplore l'absence de militaires FARDC dans plusieurs villages au bord du lac Albert. Contactez les porte-parole des FARDC, le lieutenant Gilles Ngongo promet de se prononcer incessamment sur cette question. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Entre-temps, ensuite, Kivu, le chef de cité de Sangui, sensibilise la population à remettre les armes. C'est une opération qui a commencé il y a une semaine en collaboration avec la MONUSCO. Et selon le chef de la cité de Sangui, 20 armes AK-47 ont été récupérées auprès de civils. Cette sensibilisation coïncide avec le déploiement de nouvelles unités de FRDC pour lutter contre l'insécurité dans cette cité. Plus de détails, Fiston Goma.
Le dernier cas est survenu la semaine dernière au village de Roussabagui, à 12 km à l'est de la cité de Sangé, où deux armes AK-47 détenues par un civil ont été récupérées et un jeune homme arrêté par l'armée. Peu avant, une autre arme récupérée auprès d'un autre civil a été remise à la MONUSCO et son détenteur transféré au camp DDRRR de la MONUSCO à Uvira. Dimanche dernier, un civil a été attrapé au marché de Runingu avec une vache volée. Il a dénoncé que son père détenait une arme de guerre pour protéger son troupeau de vaches. Les deux habitants du quartier Kinanira Sangue sont aux arrêts. La société civile des Sangue qui dénonce tous ces cas affirme qu'un calme relatif règne dans la zone depuis une semaine. Les chefs de cité des Sangue attribuent cette accalmie à la collaboration avec la population locale. Celle-ci a été déçue de la recrudescence des cas de braquage sur la route nationale numéro 5 et de vols à main armée à répétition impliquant des jeunes du milieu. Maloula Rukalisha tire la sonnette d'alarme et appelle sa population à rester vigilante et compter sur la nouvelle unité commando déployée récemment à Kabunam auprès des Sangue. D'Ouvira Fiston Goma Mayaba, la radio Kapi.
Parlons à présent de tirs entendus la nuit dernière dans la commune d'Endesha à Kananga. Diverses sources contactées indiquent qu'il s'agit des voleurs armés pourchassés par les éléments de la police nationale congolaise après avoir opéré dans une maison résidentielle. Les malfrats ont réussi à vider les lieux avant l'heure, comme nous le dit François Kadima.
Le drame a eu lieu vers 2h du matin de ce lundi. Le vol a été perpétré par un important groupe d'individus armés en civil et non véhiculés. Ces malfrats sont arrivés chez un certain monsieur, trésorier d'une église, et se sont introduits dans la maison après avoir forcé la porte. Ils ont récupéré des appareils électroniques et d'autres effets. Les occupants du lieu leur auraient remis également $500 américains et 50 000 francs congolais. Alertés par la population, les éléments de la police sont arrivés sur place. Des échanges ont eu lieu entre la PNC et ses voleurs qui ont réussi à s'enfuir. Avant ce cas, un autre avait eu lieu au quartier Louboua dans la même commune. Des témoins disent qu'un groupe d'individus en civil et armés aurait cambriolé le domicile d'une famille sur la route d'Ilebo. Les victimes n'ont pas eu le courage d'appeler l'aide des voisins. Dans la quiétude, les voleurs ont emporté les meubles et des vêtements. Contactés, les commissaires urbains en charge de la police judiciaire indiquent que les forces de l'ordre sont à la recherche de ces bandits. Toutefois, le major Jean Damour Bachapou exhorte la population à dénoncer tout individu suspect dans son milieu, ce qui permettra aux forces de l'ordre de mettre fin à cette insécurité. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
5 morts et 31 blessés dans un accident de circulation hier sur la route Lubumbashi-Kolwezi. C'est le bilan dressé par le médecin chef de zone de santé de Fungurume. Un grand bus de transport en commun a fait tonneau à hauteur du village Kakule. Et selon des témoignages recueillis à Fungurume, le chauffeur aurait perdu le contrôle du volant alors qu'il voulait emprunter un virage. Le point avec Denise Maheo.
Le bus venait de Kolwezi dans la province du Lualaba et se rendait à Lubumbashi avec une trentaine de passagers à bord. L'accident s'est produit au village Kakule, à 13 km de la cité de Fungurume. Des témoignages recueillis à Fungurume indiquent que c'était sous la pluie. Le chauffeur, qui roulait à vive allure, a raté le virage. Le bus a fait tonneau. Bilan, le médecin chef de zone de santé de Fungurume, qui s'est rendu sur le lieu du drame, parle de 5 morts, dont 3 hommes et 2 femmes. On compte également 31 blessés, dont 7 dans un état critique. Ceux-ci sont gardés au centre de santé de Ngouba. Les 24 autres blessés sont admis à l'hôpital de Dipeta à Fungurume. Une femme rescapée témoigne que le chauffeur a pris la fuite. Jusqu'à ce lundi matin, le bus accidenté n'est pas encore relevé. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Kapi.
Un brossage le matin après le petit déjeuner et un autre le soir après le repas, c'est la recommandation faite aux femmes enceintes par le Programme national de la santé bucco-dentaire dans le cadre de la célébration ce 20 mars de la journée mondiale bucco-dentaire. 4 maternités de la ville de Kinshasa ont été ciblées pour cette campagne démarrée ce lundi 19 mars, dont celle de Binza Delvo et de Kingasani. Au téléphone d'Honoré Misenga Kalala, docteur Alexandre Kabuya, directeur adjoint de ce programme, donne des explications sur cette campagne.
Nous avons choisi cette année de sensibiliser la femme enceinte par rapport à la thématique que nous avons retenue de la journée. Donc, la thématique nationale, c'est la santé bucco-dentaire à tout âge, avec comme notre slogan, halte aux rumeurs. Conscientiser la femme enceinte sur l'hygiène de la bouche au quotidien, la nécessité de pouvoir le faire pour ne point s'exposer aux maladies bucco-dentaires, surtout pendant la période de la grossesse, mais aussi de pouvoir insister sur la problématique de consulter le médecin dentiste pendant cette période-là. Nous avons voulu vraiment conscientiser la femme enceinte pour qu'elle comprenne, c'est d'ailleurs pendant cette période où elle porte la grossesse, qu'elle devrait pouvoir, dès le départ, consulter un médecin dentiste pour être sûre que son hygiène est bonne et qu'elle pourra mener sa grossesse à terme sans que les maladies bucco-dentaires viennent perturber la grossesse.
Et d'après le médecin dentiste, la carie dentaire, l'une des maladies bucco-dentaires les plus courantes, n'est pas causée par un verre, comme les prétend des rumeurs. Elle est plutôt le fruit des sucreries qu'on grignote et qui se transforme la nuit en acide. L'avenue Mouchy porte désormais le nom du poète Lutumba Simaro. Cet événement, qui coïncide avec le 80e anniversaire de cet artiste célébré ce lundi 19 mars, rejouit au plus haut niveau le patron du groupe Bana Oké. Jean au téléphone par Radio Capi, Lutumba Simaro souhaite remettre symboliquement sa guitare au président de la République pour marquer cet événement. Par ailleurs, l'auteur-compositeur de Mabélé dit ne pas être prêt à ranger sa guitare dans le placard, car il se considère soldat qui est censé mourir avec son arme à la main. Lutumba Simaro est joint au téléphone par Nico Kalambay.
La musique, je n'ai fait que ça toute ma vie et je pense continuer encore. Aujourd'hui, je totalise 80 ans d'âge et j'ai pensé symboliquement pour ça remettre ma guitare au président de la République. Je le remercie déjà d'avoir délégué son directeur de cabinet et le gouverneur de Kinshasa pour me rendre visite. Et je rends grâce à Dieu pour les 80 ans de vie. Toutefois, malgré cet âge, je pense continuer encore à composer.
Actualité Afrique Monde.
Et nous commençons en Égypte. 36 djihadistes et 4 soldats ont été tués au cours de 5 derniers jours lors d'opérations menées dans les nord et les centres du Sinaï, annonce faite ce lundi par l'armée égyptienne. Les forces armées égyptiennes avaient lancé le 9 février dernier une vaste campagne anti-djihadiste nommée Sinaï 2018, centré notamment sur cette péninsule où le groupe État islamique a été très actif. Notez qu'au total, plus de 100 djihadistes et au moins 20 militaires ont été tués depuis les lancements de Sinaï 2018, selon des chiffres officiels. Au Cameroun, un cadre de l'administration et une trentaine de personnes ont été enlevées samedi dernier par des séparatistes camerounais dans les sud-ouest anglophones. 4 personnes ont été également blessées dans l'attaque du cortège d'un ministre délégué en visite. En Afrique du Sud, la proposition du ministre australien de l'Intérieur d'accorder des visas humanitaires aux fermiers blancs sud-africains fait de vagues et provoque un vif débat. Entre-temps, le gouvernement semble avoir du mal à gérer sa communication autour de cette question. Le 27 février dernier, le Parlement sud-africain avait ouvert la voie à une modification de la Constitution pour permettre les expropriations sans compensation. Un comité parlementaire doit faire une proposition d'amendement d'ici la fin du mois d'août. Et le président du MPLA et ancien chef d'État, José Eduardo Santos, a annoncé vendredi dernier son intention d'organiser le congrès du parti au plus tôt en décembre cette année. Annonce faite avant la réunion du comité central qui devait en décider. Malgré les démentis, les divisions au sein du MPLA apparaissent chaque jour un peu plus flagrantes. À ce sujet, des réunions sont annoncées avec comme objectif préparer le congrès du parti qui doit pousser son président José Eduardo Santos vers la sortie.